Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
De retour à C'est Factuel sur les ondes de C'est Fac 88.3. Christine, je me tourne vers toi. C'est toi qui as la première chronique de l'émission. Donc, tu voulais nous parler de l'Eurovision qui bat son plein.
Ben oui, j'ai sorti mes paillettes, mes plumes et mes brillants pour vous parler d'Eurovision aujourd'hui. Eurovision, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, en fait, au Canada, au Québec. Évidemment, on ne fait pas partie de l'Europe, donc c'est pas quelque chose qui nous est très cher à nous. Par contre, c'est quelque chose en Europe depuis 1956 qui fait vraiment fureur et qui est vraiment un phénomène, en fait. Là, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu certains extraits ou même, je pense, dans certains films, là, on en parle un peu des fois, puis c'est... j'ai dit mes paillettes et mes plumes, mais ce n'est pas des jokes, là. C'est vraiment très...
C'est beaucoup
très...
ça, l'Eurovision.
Oui, oui, c'est très extra, extravagant, extraordinaire, extra tout, là, finalement. Donc, on va mettre un petit peu d'histoire là-dedans sur l'Eurovision Song Contest. Donc, c'est vraiment un festival de chansons, un truc de chanson. Donc ça a été en fait parti à l'initiative de l'Union européenne de radio et télévision, donc l'UER. C'était en fait, derrière ça, on avait l'idée de réunir des pays européens autour de la musique, surtout dans l'après-guerre, là, évidemment, c'était pas très joyeux en Europe, donc on essayait de rendre ça un petit peu plus joyeux, et aussi pour renforcer les liens culturels là, entre l'Europe, parce qu'on a vu que quand il y a un pays qui se sent un peu tout seul, ça finit pas toujours bien. Donc la première édition a eu à Lugano, en Suisse, avec seulement 7 pays qui participaient. Puis, ben, depuis, le concours lui a vraiment explosé. Puis, en 2025, cette année, on a 37 pays qui montent sur scène là, pour participer avec leurs chansons. Puis, ça va, en fait, bien au-delà de l'Europe géographiquement. On pense même, il y a l'Australie qui a été invitée depuis 2015.
C'est vrai,
donc,
c'est vrai.
L'Australie, nouveau pays européen, apparemment. et il y a eu plusieurs moments cultes, évidemment. Là, il y en a eu, il y a ABBA qui a gagné en 74 avec Waterloo. Il y a Céline Dion pour la Suisse, parce que Céline Dion, on la partage. en 88, ou encore l'Ordi, le groupe hard rock finlandais qui a surpris tout le monde en 2006. Parce que oui, il y a du hard rock en Finlande. Mais l'Eurovision, en fait, c'est pas juste la musique, c'est aussi, bon, comme c'est un miroir là, des tensions géopolitiques un peu. Il y a les luttes LGBT+, pardon, qui sont très mises en scène, là, qui sont très mises l'avant dans cette compétition-là. Et les minorités aussi peuvent briller, parce qu'on sait qu'en Europe, habituellement, c'est quand même très blanc, mais il y a quand même pas tant de blancs sur scène toujours. Donc, les pays utilisent beaucoup leur minorité dans la chanson, même quand ils n'aiment pas les avoir en d'autres temps. Cette année, en fait, donc c'est présentement, ça se passe présentement. En fait, aujourd'hui même, à 3h, heure du Québec, là, il va y avoir, en fait, tout après l'émission, vous allez pouvoir aller écouter la semi-finale, la deuxième semi-finale de l'Eurovision. Et ensuite, le 17 mai, à 3h aussi, heure du Québec, va se trouver la finale. Donc, l'Eurovision 2025, ça se tient présentement à Bergen, en Norvège. Et après la victoire là, l'année dernière de Marcus et Martinus pour la Suède, cette année, le concours a une saveur un peu particulière. Donc, il y a plusieurs éditions qui ont été marquées par la controverse dernièrement. L'ambiance, ça semble revenir un petit peu à l'esprit de fête originel de cette année. Là, c'est vraiment plus dans le plaisir. On a vraiment, pour l'instant, là, on a vraiment l'Ukraine avec Slata Kozlova et la chanson Tisha, donc Silence, qui est une balade poignante mêlant chant traditionnel et électro-minimaliste. Ça, je peux pas trop dire de quoi ça sonne, mais ça a l'air assez intéressant.
C'est très spécifique.
Le public a vraiment été conquis, là, tout comme les jurys, évidemment. Et la France, représentée par Slimane, a terminé avec une belle sixième place là, jusqu'à date, avec Mon Amour. Donc ça, c'est aussi une très belle balade, en fait. Là, mais ça n'a pas réussi à rassembler autant les gens que prévu. Eurovision, c'est aussi beaucoup de faits cocasses et insolites, puis des chansons drôles et aussi controversées. Donc, je voulais dresser une petite liste là, de faits cocasses qu'on a pu voir. En 2008, on a un participant de l'Irlande qui a été déguisé en dinde. Donc, pour la chanson Irlande 12 pointes, ça a été interprété par Dustin de Turkey. Donc, une marionnette de dinde télévisée très populaire. Ça a été entre la blague
absurde. OK, c'est local. Okay,
oui, c'est ça. Oui. C'est un peu comme notre Bibi et Geneviève. Là. C'est comme Bibi et la dinde. Là. On aurait... Donc, c'est un peu entre la blague absurde et la satire du concours. La présentation a laissé le public un peu perplexe. Puis, je peux comprendre, là, avoir une dinde qui chante, ça peut être assez étrange. Ensuite, on a eu la Finlande en 2006, comme je parlais un peu plus tôt, l'Ordi, le groupe metal hard rock. Donc, c'est un groupe de metal costumé en monstre. Ça a gagné haut la main avec Hard Rock Hallelujah. C'était vraiment assez... J'ai regardé une petite vidéo, là, c'est aussi bon pour les yeux que pour les oreilles, je vous dirais.
Okay.
Parce que c'est ça, c'est une gang d'exemples monstres qui font, en tout cas, c'est quelque chose, c'est, je sais pas si c'est un clin d'œil à Kiss, ou je sais pas ça représentait quoi exactement, là. Mais c'était une première pour un style aussi éloigné de la pop classique d'Eurovision, parce qu'on s'entend qu'Eurovision, habituellement, c'est très pop, c'est très, des grandes robes un peu, puis des ballades aussi, des choses comme ça. Donc, le hard rock, c'est venu clasher un peu. Puis ça a été une claque assez forte au visage, là, de Eurovision. Ensuite, en 2011, on a eu un Eurovision sans chanson. Donc, la France a envoyé le ténor à Amuri Vassili avec Sognu, une chanson en corse. C'est une langue que quand même la majorité des Français ne comprennent pas. Donc, l'idée originale, ça n'a pas vraiment fonctionné, ça n'a pas été très rassembleur.
Ce qui est drôle avec l'Eurovision, c'est que tu n'es pas obligé de chanter dans la langue de ton pays.
Oui, exactement.
Moi, je me semble que ça serait comme mon premier critère de toujours envoyer un représentant de ta propre langue. Mais tu sais, non, je disais que la Suède avait souvent gagné avec des chansons en anglais, puis la Finlande aussi. Fait que tu sais, je trouvais ça drôle que les Français aussi. Les Français ont l'air d'être plus pronts à mettre des chansons en français parce qu'il y a un Français qui chante en anglais des fois. Mais blague à part, mais c'est ça. C'est ça. Puis encore, je pense. Non, elle avait chanté en français, oui, mais c'était pour la Suisse même, c'était même pas ça. Pour la France.
Mais c'est, en fait, c'est surtout pour être capable de rejoindre les jurys puis rejoindre peut-être, le public. Si tu chantes en finlandais, t'as peut-être un peu moins de chances de connecter, surtout si t'as une balade très émotionnelle ou quoi que ce soit, t'as peut-être un peu moins de chances de connecter avec les jurys que peut-être, si tu vas en anglais. Puis je pense qu'il y a aussi un petit côté vouloir être international aussi, puis d'aller chercher un plus grand public. Il y a eu aussi, en 2011 et 2012, les jumeaux disco d'Irlande.
Ah.
Donc, Jed Ward, un duo de jumeaux exubérant à la banane gominée et à l'énergie débordante. Ça, c'est leur propre description.
Original.
Oui, c'est ça.
leurs cheveux qui doivent être
probablement,
en banane.
Oui. En fait, ils ont électrisé la scène avec Lipstick et puis Waterline. C'est un mélange de pop, criarde, puis... En fait, c'est vraiment étrange, en fait. C'est deux... En tout cas, c'est...
Ouais, les styles musicaux, hein, pop, criarde.
Oui, c'est vraiment... en fait, de tous les styles là, à Eurovision, c'est toujours très étrange. On a des femmes à barbe aussi qui ont participé. Des femmes à barbe, je pense que c'est plus... je sais pas si la personne est transgenre ou si la personne est juste... en fait, je suis pas certaine, mais en fait, c'est très... c'est ça, paillettes et plumes, là, ça représente très bien. Il y a aussi eu, en 2014, la personne ukrainienne avait un hamster géant sur la scène.
Non, mais on dirait les chanteurs masqués.
Oui,
c'est vrai.
Tu sais, la naine depuis tantôt, jusqu'à, me semble, les chanteurs masqués, ce serait pas mal ça. Ça rentrerait là-dedans. Là.
Ben oui, ça ressemble pas mal à ça, parce que justement, la chanson de l'Ukraine, c'était Tic Tac de Maria Yarimouchuk. Et dans le fond, sur la scène, il y avait une grande roue humaine dans laquelle courait un danseur comme un hamster. Donc, c'était vraiment...
C'est une performance complète, là.
Oui, c'est très performatif, en fait, Eurovision. C'est impressionnant. Il y a aussi des chansons drôles ou controversées, dans le fond, du côté de l'Ukraine. En 2007, on a eu un personnage extravagant à paillettes, Verksa, qui est devenu l'icône de l'Eurovision. Sa chanson mélangeait l'allemand, l'ukrainien et l'anglais. Ah. Puis c'était un peu du n'importe quoi, la chanson.
Okay, bon.
Parce que ça suivait pas vraiment. Donc c'est
comme le mélange de langues, c'est très inclusif, sauf que si ça suit
c'est
pas,
ça.
Si
ça
tu rates un petit peu.
Au final.
Exactement. C'était pour l'inclusion, mais sans avoir de ligne directrice en arrière. On a eu aussi la Lituanie qui a chanté « We are the winner ».
Original, pour vrai.
C'est quand même un petit peu arrogant, mais bon, ça n'a pas fonctionné.
Non, ça n'a pas fonctionné.
Non, malheureusement, ça n'a pas trop fonctionné. Mais la chanson, elle a marqué, par exemple. On a eu aussi, je pense que l'Ukraine aime ça marquer. En fait, là, en 2016, il y a eu 1944, une chanson sur la déportation des Tatars de Crimée par Staline. Donc, on va dans l'histoire et dans...
Ben, c'est ça sert aussi de tribune, si on veut dénoncer quelque chose aussi. Ben, justement, l'Ukraine avait gagné l'année qui avait été envahie de facto, parce que justement, on voulait souligner qu'on soutenait l'Ukraine et non pas la Russie. Mais ouais.
Oui, puis on a eu aussi l'Israël en 2018, une chanson féministe inspirée du mouvement MeToo. Qui a eu un mélange de poule qui glousse et de beatbox.
Oh.
C'est ça. Ça va être sûr, on va laisser ça là-dessus. Et en 2017, on a eu Don't Come Easy, la controverse sur le fait que l'Australie participait à l'Eurovision, bien qu'en dehors de l'Europe, évidemment. Ça a fait grincer des dents un peu à chaque année, là, à chaque fois que l'Australie participe. Là, les puristes, là, disons, ils n'aiment pas trop ça.
Si je me souviens bien, c'est parce que l'Australie sont comme des super gros fans de l'Eurovision et qu'ils aiment vraiment ça. Fait que c'est comme, en tant que super fan, on vous autorise à venir au concours, mais ça, quelque chose comme ça.
Oui, ben c'est en fait, je pense que l'Australie, c'est un peu un monde à part, évidemment.
Moi, c'est...
littéralement. Puis je pense qu'ils veulent appartenir un peu. Puis en fait, c'est beaucoup. L'Australie, c'est beaucoup des descendants de plusieurs endroits. Vrai, donc, il y a plusieurs des descendants.
Le grand Commonwealth, c'est représenté.
Exactement, exactement. Ils viennent avec le United Kingdom, oui. Exactement. Mm-hmm. L'Eurovision, en fait, ça reste un phénomène qui est culturel. Ah. C'est unique, ça divise, ça fait rire, ça l'émeut, mais surtout, ça rassemble. Parce qu'à chaque année, il y a plus de 160 millions de téléspectateurs qui vibrent devant les plumes et les paillettes.
C'est ça.
Improbable, ça se peut que la Moldavie batte l'Italie cette année. Ah. La politique s'invite ça, parfois, mais la musique, c'est toujours au centre de ce phénomène-là. Rendez-vous aussi en Ukraine en 2026 pour la prochaine édition. On va espérer qu'il va y avoir un endroit pour...
c'est ça, tout va bien aller d'ici là.
On va espérer. Donc, si vous voulez voir plumes, paillettes, controverses et compagnie, ben, c'est à 3h aujourd'hui et le 17, où est-ce que ça va se terminer avec la grande finale.
Excellent. La Moldavie, d'ailleurs, qui nous ont donné le mime du Epic Sax Guy, le gars avec son saxophone qui... se déhanchait,
oui.
Mais ce qui venait de la Moldavie, que ça avait été à l'Eurovision. Sinon, le dernier fun fact, l'Irlande et la Suède sont ceux qui ont le plus de victoires avec 7. Sauf que l'Irlande, la dernière, c'est 1996 et la Suède, c'est 2023. Fait que c'est eux qui sont les plus récents. Et les meilleurs deuxièmes seraient le Royaume-Uni. Avec 16 deuxièmes places dans tous les concours. Donc, c'est ça. Avec seulement 5 victoires et 16 deuxièmes places.
C'est les bons,
donc, les meilleurs deuxièmes, ce serait le Royaume-Uni.
Royaume-Uni toujours derrière quelqu'un d'autre, comme après les États-Unis en termes de monopole et compagnie.
On peut faire...
dernière petite chose, en fait, là, si jamais vous avez du temps libre, allez sur YouTube et allez voir des anciens...
oui, ça peut valoir la peine.
Oui, oui, vraiment, là, ça vaut la peine.
On peut faire une courte pause ici sur les ondes de CFAQ et on va accueillir notre deuxième invité du jour, ici même, au 88.3 à Sherbrooke.